Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous. Je vous propose que nous ouvrions notre Bible précisément dans l'évangile de Matthieu et j'ai titré ce message que nous souhaitons partager. Eh bien, tout simplement, le loup et l'agneau. Alors, ça nous rappelle naturellement la fameuse fable de La Fontaine. Alors, donc, nous allons nous tourner vers le livre, l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, et faire notre lecture à partir du verset 15, hein, tout simplement. Alors nous avons devant les yeux ce passage qui fait partie du sermon sur la montagne que Jésus nous laisse, et je lis ce passage, ce texte. « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Et Jésus ajoute cette petite parole en guise de conclusion, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Voilà. Alors nous avons donc ce passage qui est un message d'édification et un avertissement particulier. Et je voudrais commencer par dire que la vérité de Dieu a toujours été contestée. Il n'en est pas de même de l'erreur, c'est ce que Jésus tend à nous enseigner eh bien, aujourd'hui. Depuis l'Éden, c'est l'éternelle suspicion qui plane et qui entame la confiance à travers cette parole de cet être mystérieux qui est le serpent, où il est dit ceci, où le serpent dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit ? A-t-il vraiment dit ?» Donc le doute, eh bien là, fait son entrée dans le monde. D'abord le diable, qui est appelé par Jésus le père du mensonge, puis ensuite les hommes ou certains hommes, sincères croyants de l'erreur, parce que ça existe, se sont faits les vecteurs de toutes sortes d'altérations, de détournements de la révélation divine. Et nous savons que la révélation divine, on en reparlera, eh bien est consignée dans ce livre unique, ce livre universel, adressé à tous les hommes, qu'est la Bible. Leur mobile de ces hommes, en apparence, sont les plus louables et innocents, c'est-à-dire adapter, innover, ou tout simplement eh bien, faire de la parole de Dieu une tradition où il n'y a plus de caractère spirituel. La Bible est le livre d'une extrême importance. Elle offre le salut éternel aux hommes, et ce n'est pas la moindre chose. Dès lors, tout ce qui est précieux sera l'objet de l'attaque et des diffamations de l'adversaire, du diable. C'est le livre au monde, et depuis des siècles, et l'histoire l'atteste, qui a été et reste le plus critiqué, le plus examiné, le plus controversé, mais jusqu'à maintenant, il a résisté à l'acharnement de ses adversaires et on pourrait dire que sa sauvegarde est miraculeuse. Et nous voyons que toutes ces attaques n'ont jamais pu ou n'ont pas su déceler les contradictions réelles et par cela même désavouer la parole de Dieu dans son autorité divine. Ce trésor céleste a été transmis de siècle en siècle. Il nous est parvenu intact, et j'affirme intact, et il nous incombe de le communiquer après nous, tel nous l'avons reçu. L'Église a le devoir de transmettre la vérité de Dieu. Pour ce faire, il faut se garder avec beaucoup de vigilance des séductions de l'erreur. Séduire veut dire tirer à l'écart, sortir de la vraie voie, de se détourner, puis s'égarer. Dès l'origine, l'adversaire s'y a employé et nous ne pensons pas qu'il a renoncé à son passe-temps favori, c'est-à-dire ce travail de sape. Les jours que nous vivons nous rapprochent du retour de Jésus-Christ et plus que jamais auparavant, un farouche combat sera livré contre la vérité. C'est ce que nous dit l'Apocalypse au chapitre 12 et au verset 12. « Malheur à la terre dans les derniers temps, car le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Alors on connaît naturellement ses intentions et la proximité finalement de sa fin. Jésus avertit qu'au-delà du moment présent, se lèverait dans son église et je spécifie, eh bien dans son église même, de faux docteurs prétendant parler au nom de Dieu. Certainement, le plus grand péril que son église ait à affronter, eh bien, ressemble à un cancer et qui se manifeste par une division. Le cancer, c'est une division, naturellement. L'avertissement retentit comme une alarme d'un danger permanent. Et Jésus le spécifie dès l'entrée de ce petit paragraphe que nous avons lu. Il dira aux chrétiens, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Et nous savons que l'apôtre Paul va surenchérir cette pensée et il parlera de Satan, de l'ennemi, de ce monde démoniaque et ténébreux. Il parlera de son chef comme l'ange de lumière. Il apparaît comme la lumière, mais il est ténèbre. La première chose qui nous est signalée, et Jésus le marque bien, il dira « Gardez-vous notre responsabilité personnelle. » Ça, c'est véritablement ce que nous avons, eh bien là, à être vigilants sur ce point, c'est notre responsabilité. Le disciple, par sa connaissance de la volonté de Dieu, il sait, et il n'a donc pas d'excuse de se laisser tromper. Quelqu'un qui ne sait pas, qui est dans l'ignorance, eh bien, il peut se tromper aisément et on ne peut pas lui reprocher. Mais un chrétien qui connaît la Bible, qui médite la parole de Dieu, qui fait de l'Évangile, eh bien là, en effet, sa nourriture spirituelle et morale, alors à ce moment-là, eh bien, nous n'avons pas, en quelque sorte, le droit de nous tromper. L'information est claire et répétée X de fois dans le Nouveau Testament. Nous sommes exhortés à être vigilants. À défaut, eh bien là, il y a de notre part, en effet, eh bien, de l'inconséquence. Parce que Jésus nous dira, « Je vous ai tout annoncé d'avance, rien ne nous a été caché. » Alors gardez-vous, car on ne joue pas au plus fort et au plus intelligent. Séduction est synonyme aussi d'attirance irrésistible et qui va devenir un piège. Et on ne peut s'apercevoir du piège que lorsque nous sommes tombés dedans. Attention pour ceux qui ont la démangeaison du savoir universel, de tout connaître, de tout savoir, de répondre à tout. On cherche, on fouille, on s'écarte ostensiblement, petit à petit, et nous savons que nous sommes prévenus à travers le livre de la Genèse, parce qu'il est question d'un arbre de la connaissance du bien et du mal, et ce n'est pas un mythe, mais c'est une réalité qui a entraîné le monde, eh bien là, dans la chute. Et dans ce livre de la Genèse, eh bien, il est dit ceci, et ça c'est la suggestion de l'adversaire, il dira aux hommes, à Adam et Ève, vos yeux s'ouvriront, si vous mangez de cet arbre, eh bien vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, et puis le reste naturellement. Alors il y a donc une démangeaison de s'écarter, parce que nous sommes dans un monde où l'homme ne tient pas en place. C'est ce que nous dit naturellement, eh bien, dans 2 Timothée chapitre 4, et les versets suivants, 3 et le reste, il nous est dit que les hommes, à la fin des temps et à travers tous les temps, se tourneront vers des fables. Ils délaisseront la vérité, les déclarations d'authenticité de ce que Dieu nous a donné à connaître, pour se tourner vers des fables, des contes, des légendes. C'est bien ce qui caractérise le christianisme apostat. Et apostat, ça veut dire tout simplement le rejet de la vérité. Et naturellement, eh bien là, nous savons que les religions chrétiennes, prétendument chrétiennes, se sont engouffrées dans toutes sortes, eh bien, de légendes, de théories, de théologies, qui n'ont plus rien à voir avec ce que Jésus et ou la Bible nous a enseigné. Par-delà les conceptions religieuses dont nous parlons, qui sortent du cadre de la parole révélée, notre temps se caractérise par des spéculations intellectuelles qui visent à miner les fondements de la foi. C'est-à-dire que la tête s'oppose au cœur. La raison va prédominer, bien qu'il n'y a pas à rejeter la raison, il faut de la raison. Mais nous croyons que les deux doivent fonctionner, le cœur et la tête. Vouloir tout comprendre, et ce qui a donné à travers naturellement les siècles, les temps, eh bien l'agnosticisme, les révélations des siècles des Lumières, 18e siècle, l'humanisme, l'évolutionnisme, l'existentialisme, et tout cela, comme je l'ai signalé tout à l'heure, ça se trouve sous la plume de l'apôtre Paul, et vous pouvez le relire dans Colossiens chapitre 2, versets 8 à 9. Le christianisme fidèle est une affirmation et non une négation des vérités fondamentales. Corruption de l'espèce humaine, le salut par grâce et par la foi, l'autorité de la parole de Dieu, le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, la résurrection, l'éternité qui, en effet, eh bien, prend deux directions, le salut ou tout simplement la perdition. Alors, tout cela a été édulcoré, a été minimisé, a été déformé. Jésus nomme des faux prophètes qui sont finalement les vecteurs de tout ça. Alors, qui étaient-ils du temps de Jésus, puisque Jésus nous en parle, et qui sont-ils encore aujourd'hui? En première ligne, du temps de Jésus, c'était les scribes, les savants, de cette période, les savants, les docteurs de la loi plus précisément, les pharisiens, les sadducéens, qui entraînaient le peuple d'Israël à sa ruine, souvent sous le couvert d'une autorité non permis de mettre en doute, une forme de dictature de la pensée, de la raison. Et nous avons naturellement, et là aussi, c'est livré à votre, eh bien, à votre recherche, dans Matthieu chapitre 23, nous avons quelque chose de formidable que Jésus tient comme un réquisitoire. C'est dans Matthieu 23, chapitre 2 à 4, et également le verset 13, quand il dit « Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font ». Ils viennent à vous, nous dit Jésus. Combien l'erreur a de facilité de pénétration. Elle s'infiltre insidieusement, provoque les esprits, et de quelle manière? Par des agents qui se trahissent par leur comportement. Ils viennent à vous, écoutons bien, en vêtements de brebis. Ils ne prennent jamais à la gorge, mais ils viennent d'une manière insidieuse. Et voilà tout le mystère de la séduction et de son efficacité. Le vêtement donne l'apparence de la douceur, peut-être de l'innocence, de la vertu, des paroles spécieuses, c'est-à-dire qui ont l'apparence de la vérité, mais qui sont tout simplement de l'erreur. Il y a eu, il y aura encore des hommes qui semblent appartenir au peuple de Dieu, qui ressemblent aux brebis. Ils parlent comme elles, ils prient comme elles, parfois mieux qu'elles. Ils revêtent un masque de respectabilité, de désintéressement, d'humilité, de profondeur spirituelle. Cela n'est pas fictif. Et là aussi, nous avons dans Colossiens chapitre 2, eh bien, que toute une description qui nous est faite au verset 18 et 19, en disant qu'il se pare d'humilité, et c'est tout simplement un déguisement, là, pour cacher leur fausse piété. C'est un maquillage réussi qui tente à imiter, à faire comme, à contrefaire, à rendre plus beau. Alors attention. Dans Romains, l'apôtre Paul nous dit ceci au chapitre 16, 17, 18, il nous est dit que ces hommes viennent, travaillent dans l'Église, travaillent à déstabiliser les véritables et authentiques chrétiens, et ils disent leur enseignement est au préjudice tout simplement de votre foi. Encore un sage conseil pour notre crédulité, notre naïveté, dans Proverbes chapitre 26, 23, 25. La menace va plus loin encore, Jésus nous précise, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles au point de séduire les élus. Miracles et prodiges mensongers. Comment faire la différence? Un critère d'appréciation nous est livré par l'apôtre Jean dans son épître 1 Jean chapitre 4 verset 1er. Il dira ceci, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez les esprits, n'ajoutez pas foi, soyez perspicaces, ayez du discernement, mettez à l'épreuve par un examen scripturaire, c'est-à-dire en comparaison avec ce que nous dit l'Évangile, l'Écriture, si l'enseignement apporté est conforme en tout point à ce que Dieu a déjà révélé. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des choses dans l'histoire, dans le passé, des contes et des légendes, et ce n'est pas la peine de spéculer sur un hypothétique avenir, sur des choses qui n'auraient pas de rapport avec ce que Jésus nous a dit. Parce que Jésus et la Bible nous a dit suffisamment pour que nous sachions les choses et que nous y tenions. Sinon, s'abstenir, faire preuve de perspicacité et de lucidité, qualité qui devrait être évidente chez tous les disciples avisés, chez tous les chrétiens sincères et véridiques. Un trait caractéristique de la brebis, c'est qu'elle ne connaît qu'une seule voix. Et Jean, là, nous rapporte les paroles de Jésus, et quand il parlera de cette belle parabole, de la brebis, du bon berger, il dira « Lorsque le berger a fait sortir toutes ses propres brebis pour les emmener dans la montagne ou dans les pâturages, il nous est dit que ce berger marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. » Il y a ici réciprocité de relation fondée sur une solide confiance. Le berger marche devant elles, elles se laissent conduire parce qu'elles ont confiance. Elles entendent sa voix et lui obéissent naturellement. Le lien d'union, c'est l'amour et la confiance. Il y a une connaissance, on pourrait peut-être préciser, instinctive. Le berger les soigne, il les protège, les guide sans faillir. Les brebis ne le quitteront jamais. Les brebis fuient la voie des étrangers, nous précise un peu plus loin, Jésus. La raison ? Celui qui est exercé au jugement saura toujours découvrir dans la voix d'un étranger une parole, un enseignement, un ton, une manière d'agir opposée au caractère du vrai berger, cela ne trompe pas. Le disciple n'entend qu'une seule voix, c'est celle de la vérité, et parce que c'est la vérité, parce qu'elle cette vérité dans son cœur, il y obéit. Quiconque, nous dit Jésus dans l'évangile de Jean, est de la vérité, écoute ma voix, écoutez la vérité. Il y a deux façons de l'interpréter et de la transmettre. Un principe, la voix de la vérité de Christ passe par une parole écrite, c'est-à-dire la Bible. Et cela, ça a demeuré à travers les siècles. C'est pour ça qu'elle a été écrite, elle a été fixée, en toutes sortes de, tout simplement, d'appui, à travers la page imprimée, et puis naturellement, toutes sortes, de manuscrits et autres choses. Et par le moyen des serviteurs fidèles. Et c'est pour ça que Jésus a choisi des disciples, c'est pour ça qu'il a envoyé des apôtres, c'est pour ça qu'il a envoyé des évangélistes et des prophètes. Parce qu'il les a choisis pour qu'ils soient fidèles, et leur mission, ce sont des ministères dons de la parole. Ça, c'est le travail, finalement, de ces enfants de Dieu qui ont naturellement une fonction, un titre, probablement, mais leur but, c'est de prêcher la parole et de faire connaître la parole au monde entier. Alors, examinons, par exemple, dans l'Épître de Jean, au chapitre 4, versets 5 à 6, et là, nous avons la différence. C'est ce qui fait la différence. Quand il s'agit du monde, eux, ils sont du monde, en parlant des hommes qui sont là, incrédules ou rebelles. C'est pourquoi ces faux prophètes, parlent d'après le monde, et le monde les écoute, parce que c'est un langage qui leur va. Nous sommes de Dieu, pour parler des authentiques, celui qui connaît Dieu nous écoute, parce qu'il connaît Dieu, et il y a, comme nous l'avons déjà signalé, une affinité instinctive. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est tout à fait logique. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et c'est pourquoi Jésus a voulu cadrer dans ce petit paragraphe qui nous a servi, qui nous sert, de référence, pour que nous puissions vraiment comprendre ce qu'est la vérité, ce qu'est l'erreur, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est pas la vérité et l'erreur, mais c'est l'esprit qui est derrière. C'est ce qui préside finalement, et bien là, à ces deux antagonismes. Jean définit le signe certain qui différencie l'erreur de la vérité par le fait même d'obéir, d'écouter docilement, et tout cela, eh bien, de recevoir dans la confiance et la foi. Comment ? Les serviteurs de l'erreur trahissent leur appartenance en ce qu'ils proposent, dans des formes et dans un langage particulier, une vérité ou partiellement une vérité qui plaît au monde. Ils reçoivent l'approbation du monde, qui flatte les penchants du monde. C'est une forme de démagogie et qui est en concurrence avec la vérité de Dieu. Ils sont du monde, et le monde les écoute, parce qu'il y a un esprit à l'intérieur de l'homme, naturellement. Ceci est un piège pour les vrais enfants de Dieu, qui sont tentés de voir dans le succès des faux prophètes, parce qu'ils ont du succès, parce que le monde les écoute, eh bien, dans le succès des faux prophètes, des faux prédicateurs, des faux frères, un signe de vérité, mais ce n'est qu'un signe, une apparence. Et le ralliement du plus grand nombre n'est pas une preuve de vérité. Ce n'est pas parce qu'il y a là 80% des gens qui, eh bien, ont de l'engouement pour telle ou telle théorie ou autre chose, ce n'est pas pour ça qu'ils sont dans la vérité. « Ne crains point, nous dit Jésus, petit troupeau, ne crains point, car votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et c'est vrai que les chrétiens sont certainement moins nombreux que ceux qui, quelque part, ont choisi un autre chemin et qui, finalement, eh bien, ont pour tout simplement fondement de leur vie l'erreur ou partiellement des erreurs. À l'inverse, il y a le témoignage du fidèle, du chrétien, du croyant, qui, loin d'attirer l'acquiescement des foules, se fait remarquer et est accepté de celui qui obéit à Dieu. Quiconque connaît Dieu nous écoute, disent, eh bien là, eh bien le véritable dit le vrai chrétien. Quiconque connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. L'esprit de la vérité se trouve donc dans cette volonté docile d'obéir et de garder intacte la parole. Je dis bien, je précise, de garder intacte la parole comme un trésor, comme un bien. Et nous savons que, eh bien, la foi vaut plus que l'or. Et cette foi, elle trouve sa source et ses ressources dans le message de Jésus-Christ, le message de l'Évangile. L'esprit de l'erreur commence quand on veut faire ce qu'il nous plaît, sans souci d'obéissance et en affaiblissant ou en atténuant la parole révélée pour la conformer au desiderata du plus grand nombre. Les petites concessions doctrinales font les grandes hérésies. Alors Jésus dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Le vêtement ou l'habit de quelqu'un a peu d'importance. Il faut considérer le « dedans », c'est-à-dire la vraie nature cachée à l'intérieur. C'est à la fois les sentiments, l'état d'esprit, les mobiles. Or, sous l'apparence trompeuse de la brebis innocente, il y a un loup, nous dit Jésus. Ne vous fiez pas aux apparences, ne jugez pas selon les apparences, jugez selon la vérité et prenez garde de ne pas être abusé. L'animal, le loup, est un animal dominateur, vindicatif, cruel. Il enlève ses proies et les dévore. Là où ils font le plus de grands désastres, c'est quand ils entrent dans la bergerie, c'est-à-dire à l'intérieur. Et je pense particulièrement, eh bien là, à l'église. C'est là où ils sont le plus dangereux, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et il y a cette redoutable affirmation de Jean, « Ils sont sortis du milieu de nous ». C'est-à-dire prétendument chrétien, ou l'apparence d'être chrétien, l'apparence d'une certaine foi et piété. Mais ils n'étaient pas des nôtres, nous dit Jean, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et c'est pour ça que quelquefois il y a des choses étranges même dans les églises, où nous nous apercevons qu'à travers les scandales, à travers des vies complètement dépravées, il y a un discrédit, eh bien là, sur les fidèles, sur ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, les véritables disciples, et sur l'Église elle-même. Et on comprend que les gens disent quelquefois, et beaucoup de gens disent, ne me parlez pas de Dieu, parce que si je vois et si j'entends ce que je vois et j'entends, particulièrement venant de l'Église ou des Églises, alors c'est pas la peine d'aller plus loin. Alors il y a là, naturellement, ils manifestent qu'ils ne sont pas des nôtres. Et les mobiles et l'état d'esprit des loups ravisseurs, ravir, je voudrais donner l'explication du verbe, exprime l'idée d'enlever par la force, par la ruse, par surprise, derrière une apparente douceur, se cache un désir de domination violente, tyrannique, despotique. Et l'image du loup est pas prise au hasard, naturellement. La Bible décrit, dans Jacques, eh bien, finalement, que tous ces gens-là, les faux, ces faux prophètes, eh bien, se manifestent un zèle amer et un esprit de dispute. Et nous avons, par exemple, là, dans quelques personnages de faux docteurs ou de faux pasteurs ou de faux chrétiens, il y a le nom de Diotrephe, qui aime à être le premier, c'est-à-dire l'orgueil de soi-même. Dans le livre des Romains, il nous est parlé d'un esprit de querelle et également de jalousie. Ça, c'est aussi une caractéristique. Dans le livre des Corinthiens, il nous est parlé de disputes, dans Galates, des inimitiés, des animosités, des divisions, des sectes, de l'envie. Dans Philippiens, il est question d'esprit de parti, de vaine gloire. Et nous voyons que la conclusion qui est tirée dans l'épître de Paul, c'est ils ont des motifs qui ne sont pas purs. Voilà. Mais en apparence, eh bien, ils semblent pieux, ils semblent fidèles, ils semblent aimer Dieu, mais dans le fond, et il n'y a que Dieu qui peut naturellement savoir ce qu'il en est dans le cœur et dans l'âme et dans l'esprit des hommes, alors il nous est dit qu'ils ne sont pas purs. Tous ces faux prophètes ont un point commun, nous est dit dans Romains chapitre 16, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, leur intérêt, leur ego, leur propre intérêt, leurs affaires, leur influence, leur avancée ambitieuse, même sous le couvert, finalement, eh bien, de la foi, qu'ils ont complètement dénaturée. Quel mal tout cela fait à l'Église ? Car il en est plusieurs, nous dira Paul, qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore, en pleurant, que de larmes et de blessures. Ça, c'est le travail du loup. Et puis, je voudrais terminer, tout simplement, notre méditation. Paul tremblait pour les églises dont il était en charge, et il a ouvert de nombreuses communautés dans son temps, dans son siècle. Et nous voyons que dans un discours particulier qu'on appelle le discours d'adieu aux anciens de l'église d'Éphèse, il dira cette parole, « Gardez-vous, je vais partir, mais gardez-vous des loups cruels, et ils enseigneront des choses pernicieuses. » Mais dans quel but ? Les sectaires ne vont pas chercher dans le monde des âmes qu'ils gagnent à leur vue, mais des disciples naïfs qu'ils veulent entraîner, non derrière le Seigneur, mais après eux. Les uns le font par motif d'égoïsme et d'orgueil, d'autres, aveuglés par leurs illusions, se persuadent qu'ils sont les seuls à être dans la vérité et ils veulent convaincre les autres alors qu'ils sont eux-mêmes dans l'erreur. Ils veulent les convaincre que c'est eux qui détiennent la vérité et qui détiennent la véritable vie. En conclusion, quatre mots sur lesquels je voudrais simplement terminer. Jésus rappelle et nous dit d'une manière solennelle « gardez-vous ». Ensuite, il nous parle des faux prophètes. Ensuite, il nous parle du vêtement de brebis. Et il termine par, dénonciation, il parlera de loups ravisseurs. Nous voyons que dans 2 Jean, verset 9, et là, Jésus est formel, quiconque dira, l'apôtre, il dira, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, dans l'évangile de Jésus-Christ, dans la vérité de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, de Christ, dans la foi en Jésus-Christ, a le Père et le Fils. Alors, les yeux ouverts et fervents d'esprit, ça c'est le leitmotiv que nous devons avoir. Des courants religieux et des philosophies, eh bien, s'allient l'économie, la culture, le matérialisme, la politique, le christianisme dans sa forme d'apostat, des religions orientales, l'athéisme, l'occultisme, un idéal d'unité mondiale vint s'imposer de plus en plus pour fonder une super église, un super système avec un super leader que l'on appelle l'Antéchrist, la Grande Babylone. Et nous voyons que nous retournons dans les premières pages de la Bible, dans le livre de la Genèse, qui nous rappelle naturellement la tour de Babel. Allons et bâtissons et faisons-nous un nom sur la terre. Le royaume de Dieu est au ciel et non sur la terre. Mais néanmoins, eh bien, ce royaume de Dieu s'offre à tous les cœurs qui aiment la vérité. Alors, que sera l'Église et sa position dès maintenant? Quelle est l'Église et quelle est sa position? Eh bien, nous avons une belle promesse, et c'est sur ce mot, ces mots que je termine, dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, et ça c'est pour nous encourager à aimer la vérité, à aimer Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, en sachant que nul ne vient au Père que par lui. Alors, cette parole nous est dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, nous dit l'Esprit de Christ, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Voilà, parce que nous sommes soucieux de la vérité, nous sommes soucieux de la personne de Christ, de son œuvre, de ce qu'il a accompli pour nous, des promesses qu'il nous a faites, de l'espérance qu'il a mis d'un autre monde, du changement de notre nature pour faire de nous des hommes nouveaux. Alors, la promesse « je te garderai », nous dit l'Esprit de Christ, « à l'heure de la tentation ». Eh bien, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. « Parce que tu as gardé, je te garderai ». Alors, je pourrais dire, gardez-vous et soyons au garde-vous, en quelque sorte, pour, eh bien là, attendre la réalisation. Et c'est que dans la vérité que nous pouvons, eh bien là, grandir et nous développer. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous visite à travers ces quelques paroles, et peut-être vous recommander, lisez tout à nouveau, finalement, eh bien, cette fable de la fontaine, je m'en suis un petit peu inspiré avec le texte de la Bible, pour nous montrer qu'il faut être vigilant, il faut avoir le discernement, et avoir véritablement l'esprit de la vérité à l'intérieur de nous-mêmes. Et l'esprit de la vérité, c'est le Saint-Esprit. Il nous est dit simplement que je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de la vérité, et il vous conduira dans toute la vérité.